Raconter une histoire, ça n'a rien d'anodin. Ça réveille les esprits. Ça les met en marche. Ça réveille des énergies dont on n'est pas maître. On ne manipule pas l'invisible comme ça. Il faut être poli avec l'invisible.
Amis rêveurs, on ne plaisante pas avec l'invisible. L'invisible requiert du savoir-vivre, de la courtoisie et de la civilité. Vendredi dernier, nous avons commencé à chatouiller les esprits avec Bernadette Bricout et Henri Gougaud. Et on ne parle pas des contes, on ne raconte pas des histoires sans savoir que ça agit sur les esprits et les grandes forces du monde. Et la première des politesses avec l'invisible, c'est de finir le conte. La parole ne peut pas rester suspendue. Le monde ne peut pas supporter le désordre des points de suspension. Il faut finir les histoires, et c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons clore la conversation buissonnière que nous avons entamée la semaine dernière avec Bernadette et Henri. Parce que cette conversation suit un chemin, et s'arrêter en route nous priverait de sens. Sur notre chemin ce soir, il y aura des épreuves, bien sûr. La mort même pointera le bout de son nez. Mais il y aura aussi du sel, il y aura un parfum d'océan, il y aura du désir infini. Et c'est encore une fois la vie et la poésie qui auront le dernier mot. Ah, j'allais oublier de vous dire que Henri Gougaud est conteur et que Bernadette Bricout est professeur de littérature orale. C'est une façon de les présenter. J'aurais pu dire aussi qu'ils sont maîtres de la parole ou poètes, comme vous préférez.
Très souvent, dans les contes merveilleux, que ce soit un héros ou une héroïne, au départ, on le reconnaît au fait que lui ou elle cumule tous les handicaps possibles. Souvent, il est pauvre. C'est le plus pauvre berger de sa province.
Ouais.
Il est faible, il est fragile, il est chétif. Quelquefois, il ou elle peut être laid.
Ouais.
Il peut être affublé d'un groin de porc. Enfin, bref, c'est celui sur lequel vous parieriez pas un copec. C'est l'outsider parfait. C'est le héros le plus improbable qui soit.
C'est-à-dire, c'est toi ou moi, quoi.
C'est nous.
Ouais,
c'est
nous. N'importe qui.
C'est n'importe qui, même au pire moment de notre vie. Et si ce héros-là, qui cumule tous les handicaps, qui est lourdement handicapé...
Il y arrive.
Alors, ça veut dire que nous aussi, nous ferons notre place au soleil. Je ne parle pas d'une place sociale. Je parle de trouver sa place dans la lumière du monde, quoi.
Voilà,
hein,
voilà,
se réaliser.
Voilà. Implicitement, l'enfant qui entend, par exemple, le petit poussé, il lui est dit... sous les mots, tu sais, tu vois, voilà, tu n'es pas plus malin que le petit poussé. Ça va être dur. Tu vas rencontrer des ogres, ça va être dur, mais tu vas t'en sortir. Lui, ça n'est sorti, donc toi, tu peux t'en sortir.
Et sur l'amour, c'est la même chose. Le conte sur l'amour, c'est la même chose. Il dit, même si ça va être difficile, même s'il va y avoir des épreuves, sur le chemin de l'amour...
Alors, c'est différent. C'est différent parce que quand on parle de l'amour, on parle de quoi ? On parle de la relation amoureuse, on parle de la relation, du désir, de l'érotisme, de la relation sexuelle. Là, si on parle de ça, et les contes parlent de ça, on rencontre à ce moment-là des histoires initiatiques, mais au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire l'initiation à la rencontre amoureuse. Comment est né le sexe de l'homme, comment est né le sexe de la femme, comment l'homme et la femme ont fait l'amour pour la première fois, etc.
Il y a aussi autre chose que nous disent les contes, c'est que on peut se tromper. On peut se tromper dans la vie.
On a le droit de se tromper ?
On a le droit de se tromper.
On a le droit de ne pas prendre le bon chemin.
On peut se tromper. On peut être trompé par les apparences. On peut se tromper de chemin. On peut se tromper de prince. Il y a des faux héros dans les contes.
Mmh.
Et puis, on peut aussi hésiter. C'est-à-dire que bah, quand le héros, quand par exemple dans le conte La fille du diable se retrouve en face de 12 filles, tout est exactement pareil, parce que le diable ne fait jamais les choses à moitié, laquelle il va choisir? Et le conte nous donne des moyens, parfois des moyens étonnants, des moyens surprenants pour nous, de nous y repérer. Il donne des repères. Mais en tout cas, ce qu'il dit aussi par rapport à l'amour, c'est que, voilà, même si on traverse des épreuves, même si on se trompe de chemin, même si on n'a pas choisi le bon, tout ça n'est pas pour rien, parce qu'il y a un chemin qui traverse tout ça et qui nous conduit vers la construction de nous-mêmes et vers la découverte de nous-mêmes. Et ça, c'est... Enfin, ça, c'est fort, quoi. Et ouais, c'est précieux.
Vous êtes bien sur France Inter, jusqu'à 21h, c'est l'heure des rêveurs, et ce soir, les esprits écoutent aussi.
You better go now, because I like you much too much. You have a way with you. You ought to know now just why I like you very much. The night was gay with you. There's a moon above, and it gives my heart a lot of swing. Spring, I want you so now. You have the lips I love to touch. You better go now. You better go, because I like you much too much.
Avec Bernadette Bricout et Henri Gougaud, on avait décidé de parler du beau désir, des contes d'amour. Mais est-ce que vous saviez qu'il y a contes d'amour et contes d'amour? Il y a le haut du panier, prince charmant, belle au bois dormant, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et il y a les autres contes, ceux qui prennent un malin plaisir à mettre des mots sur la chose, poireau, braquemard, asperge, flûte, figue, abricot, amande, comme vous préférez.
Moi, je me suis aperçu, en travaillant un peu là-dessus, que pour ce qui concerne les contes paillards,
ouais,
ils avaient une place beaucoup plus importante que ne leur accordent les ethnologues. On raconte des contes paillards au retour des enterrements, par exemple. Quand on vient d'enterrer le grand-père ou la grand-mère, on fait une grande bouffe.
Ouais.
Après, hein? La grande bouffe. Et au terme de la grande bouffe, bien mangé, bien bu, on commence à raconter des histoires sur le défunt ou la défunte. Ouais, ouais, c'était un chaud lapin, c'était... Bon. Et on commence à raconter des contes paillards. Ils prennent là une place vitale. vital parce que cela signifie simplement que la vie se réamorce toujours par le bas.
Par le bas, par le ventre, par le désir, le truc hein, qui fait qu'on a envie de rester en vie, quoi.
Voilà, ça se réamorce. Les contes paillards ont alors une fonction, ouais, vitale, peut-être plus importante que les contes merveilleux qui constituent l'aristocratie des contes. Enfin, je ne vais pas discuter de ça, mais voilà, ils constituent l'aristocratie des contes, les contes merveilleux. Les contes paillards, on pourrait dire qu'ils en constituent le prolétariat, quoi. Et le truc que les ethnologues consciencieux relèvent, renotent parce qu'il faut le faire. Mais enfin, c'est pas valorisant, c'est pas formidable, les histoires de cul, quoi. Voilà. Mais quand même, ces histoires-là ont une fonction puissante. Et puis, il y a justement, par rapport à ces contes paillards, comment peut-on raconter ces contes ? Il y a un jeu avec les mots qui s'instaure. Comment dire les choses, quoi ? Comment dire les choses de manière à ne leur enlever rien de dynamique, de fort, de vivant, de charnu, j'oserais dire, de couillu même, mais en les disant de manière, agréable à entendre, enfin, pas vulgaire, quoi.
Il me semble que, par rapport à ce que tu évoques, là, des contes licencieux, des contes paillards, le merveilleux et le licencieux se répondent et se complètent. Il y a d'ailleurs des contes qui nous disent, il y a des contes merveilleux qui nous disent que pour arriver à séduire une femme, il faut arriver à la faire rire. Il y a beaucoup de contes merveilleux, ou à la faire la jeune fille qui n'a jamais ri ni parlé. Il y a un conte qui est un grand conte merveilleux qui raconte l'histoire d'une fille. Elle n'a jamais ri ni parlé et donc, évidemment, ça inquiète le père. Il a le sentiment qu'elle est peut-être entrée on parlerait aujourd'hui de dépression. Et donc, il multiplie autour d'elle toutes les possibilités de la faire rire. Et à la fin, on va voir arriver un garçon avec une sorte d'attelage très surprenant. Il serait trop long d'évoquer comment il le conquiert, comment il le constitue. Mais dès lors que la fille éclate de rire, alors l'union est réalisée. C'est-à-dire qu'arriver à la séduire, c'est aussi faire rire son ventre. C'est la faire rire. Et ces contes paillards, ils nous inscrivent aussi dans le rire, dans la jubilation de la joie. Voilà. Il y a l'énergie, jubilation de la joie. Et ce conte-là le dit.
C'est un truc qui existe dans toutes les traditions. Les sexes, au début, tant de la femme que de l'homme, sont des êtres indépendants. C'est ça. Et ça donne une idée du désir qui dépasse la volonté humaine, quoi. Hein, c'est le désir qui nous guide, quoi. C'est nos sexes qui nous guident.
Ouais,
hein,
ouais.
Voilà, on ne peut pas résister. Ils sont indépendants. C'est eux qui commandent, quoi. Ouais. Voilà. Donc, il y a, dans toutes les traditions, d'assez nombreux contes comme ça qui mettent en scène, en jeu, des personnages qui sont le sexe de la femme ou le sexe de l'homme. Voilà. Et là, le sel, qui est un conte africain, dit que au premier jour du temps, cet outil qu'on appelle verge, poireau, braquemar, flûte, asperge, allumette, bâton de lit, justement, il y a une espèce de profusion incroyable de manière de désigner le sexe tant de l'homme que de la femme. Bref, ce machin pendu qui fait d'un être humain un homme était un vivant sans famille, libre d'aller et de venir, de parler, manger et dormir, comme font les gens ordinaires. Alors, donc, moi, dans le conte, je lui ai donné le nom de Monsieur Dard, en hommage à Frédéric, j'ai trouvé ça bien. Voilà. Et le vagin, autrement nommé figue, abricot, amande douce, trou mignon ou tunnel d'amour, bref, ce Graal dont toute femme est aujourd'hui dépositaire, était à cette même époque pareillement indépendant. Madame Vazedoux, voilà, vivait, tout comme Monsieur Dard, sa vie.
Leur village était pauvre, on y pleurait famine. Ils décidèrent donc, ils étaient bons amis, d'aller un jour ensemble à la ville voisine, espérant échanger leurs derniers coquillages contre quelques dîners, quelques repas. Madame Vazedoux aimait la soupe au mille. Elle acheta de quoi s'en cuire une marmite. Monsieur Dard, lui, pensait que le sel maritime était remède à tout. Il s'en fit donc peser un sachet d'une livre. Après quoi, content du voyage, ils s'en retournèrent au pays. Or, comme ils cheminaient, le ciel se renfrogna, le tonnerre gronda, les éclairs fouettèrent les arbres, et comme M. Dard levait la mine inquiète, son front chauve vers les nuées, l'orage, un gros et gras, lui cracha dans les yeux ses deux premières gouttes. « Ya, ya, dit-il, mon sel, il va partir à nous, il va fondre. Au secours, Madame Vazedoux, sauvez-moi, sauvez-le, il me faut le mettre à l'abri. Mais où, seigneur, d'en haut ?» Il regarda à droite, à gauche, son air s'illumina. « Grâce à Dieu, j'ai trouvé dans votre grande bouche. Madame Vazedoux, ouvrez-la, que j'enfourne. » Madame Vazedoux, docile, décolla ses belles lèvres rouges. L'autre poussa dedans sa livre de sel fin. Après quoi, tous les deux cherchèrent quelque endroit où s'abriter de l'eau, qui déjà s'abattait par mille trous célestes. Madame Vazedoux vit une termitière. « Voilà ce qu'il me faut, dit-elle à Monsieur Dard. » Elle s'enfonça dedans. Derrière elle, il cria « Poussez-vous, sacré nom, faites-moi de la place !» Elle répondit « Je ne peux pas, le lieu est trop étroit pour deux. » Monsieur Dard, le dos rond, s'en alla sous un arbre et se bâtit, tant bien que mal, un abri de branches feuillues. Mais voilà la pluie qui s'énerve et fait ruisseler les chemins. Voilà la termitière emportée corps et biens dans un torrent de boue. Madame Vazedoux se retrouva dehors sans même avoir ouvert la porte. Elle courut à la hutte. Où était Monsieur Dard ? Il avait allumé du feu, il se faisait cuire un potage. « Entrez vite, dit-il, et rendez-moi mon sel. Il faut que j'assaisonne. » Elle répondit « Le sel ? Quel sel ? Où je l'ai mis ?» « Seigneur, je l'ai perdu, voyez, ma bouche est vide. »« Non, mais c'est grave, ça, vous vous moquez de moi, » dit Monsieur Dard, tout rouge. « Vous ne me croyez pas ? Entrez donc, cher ami, vérifiez vous-même. » Monsieur Dard se raidit, pénétra rudement chez sa compagne ouverte, fureta ça et là, poussa, sortit, revint. « Fouillez, fouillez partout !» lui dit la voix mourante. « Madame Vazedoux, ne vous pressez pas, surtout, j'ai tout mon temps. » Monsieur Dard, furibond, ne trouvant nulle part le sel qui guérit tout, cracha un long jet blanc, quitta les lieux, enfin. Il resta un moment abattu, tête basse. « Peut-être avez-vous mal cherché, » lui dit Madame Vazedoux. Peut-être avez-vous oublié quelques recoins obscurs, secrets. Allons, ne désespérez pas, remettez-vous donc à l'ouvrage. » Et l'autre, bravement, prit un souffle puissant et revint le front haut à ses fouilles profondes. Et depuis, il cherche. Depuis, il cherche et cherchera jusqu'à la fin des temps, sans doute. Quand il est fatigué, il crache et s'en retourne aux affaires du monde. Mais l'espoir renaît vite. Alors, ragaillardi, il repart dans la bouche obscure chercher le sel qui guérit tout, le sel dont il ne reste rien qu'un parfum d'océan entre deux lèvres tendres.
Mais c'est vrai que ça met en joie. C'est vrai, hein ? On a un plaisir.
Il y a la joie et en même temps, il y a quelque chose. Ce conte est magnifique et je trouve que la chute d'Henri est très belle parce que la chute, c'est toi, le parfum d'océan entre deux lèvres tendres.
C'est ces contes-là, je les ai trouvés dans un livre d'ethno de Suzanne Lallemand qui s'appelle « L'apprentissage de la sexualité dans les contes d'Afrique de l'Ouest ». Et ils sont résumés.
Ouais.
Il y a un scénario, et pour un conteur, c'est idéal, ça.
Ouais,
parce qu'on peut réanimer l'histoire, quoi.
Ce parfum d'océan, c'est vraiment la recherche d'un plaisir perdu, quoi. on recherche, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'un plaisir perdu, d'une quête qui est une quête sans fin, parce que jamais on ne le retrouvera, le sel. Et c'est aussi pour ça que, d'une certaine manière, le désir est infini. C'est aussi ça que dit le conte.
Que jamais on ne le retrouvera.
Ah, ben oui.
Ah oui, c'est vrai, jamais c'est on ne le retrouvera.
Mais bien
jamais,
sûr.
C'est vrai. Non, mais oui. Je l'ai pas entendu jamais comme ça, moi, je l'ai entendu.
Ah, ben moi, je trouve que c'est le meilleur remède contre l'ennui, contre la routine, contre...
De chercher le sel. Et moi, j'entends moins la quête impossible. J'entends plus le jeu recommencer à l'infini.
Il y a un mystère quand même dans tous les contes, c'est que on peut les entendre tous de différentes manières, selon ce que l'on est, selon l'âge qu'on a. Je veux dire qu'un conte peut être aussi nourrissant pour un homme et pour une femme, bien sûr, mais pour un enfant et un vieillard érudit aussi, mais pas de la même manière. Chacun l'entend, et il y a tout dans les contes. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'apparemment il y a tout, puisqu'ils sont nourrissants pour tout le monde, quelle que soit la gourmandise des uns et des autres.
C'est ça, et nous on ne l'entend pas tout à fait de la même façon, mais vous avez raison, bien sûr que ça parle de ce sel perdu qu'on ne retrouvera plus, mais moi j'y vois pas...
Oui, pardonnez-moi, je pense à Rilke, et quand des êtres qui se haïssent s'endorment dans le même lit, la solitude alors s'en va au fil des fleuves. Je trouve que la quête du sel, vous savez, il faut inscrire aussi l'amour dans le temps et dans la durée. Et on nous parle souvent de l'épuisement du désir, ou de la lassitude, ou de la routine, ou de ces gestes de l'amour qui se sont perdus. Mais le meilleur antidote, c'est le sel. C'est la quête du sel. Voilà, c'est le sel de la vie et c'est le sel du désir aussi, sans cesse renaissant. Parce que Monsieur Dard, il n'en aura jamais fini avec sa recherche du sel. Il est toujours à son potage.
Il est toujours à son potage. Il a toujours besoin de sel.
Ah oui,
c'est
oui,
ça
oui,
il
bien
est toujours
sûr.
À son potage.
Il est toujours à son potage.
Et ça nous donne envie de vivre. Ça
c'est
donne
pas
envie
vous
de vivre. Ah bah moi aussi.
Eh ben alors.
Ce que j'aime bien aussi, moi, dans cette chute, c'est le parfum. Parce que d'une certaine manière, les contes, ça pourrait être un parfum si on était dans l'ordre des sensations. Souvent, ce sont des voix qu'on entend et qui nous surprennent. Mais ça pourrait être un parfum aussi, vous voyez. Et le parfum du paradis perdu. Voilà, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la nostalgie. Un parfum d'océan entre deux lèvres tendres, c'est... Voilà, non ?
Moi, c'est l'océan. Moi, j'entends l'océan. Le sel de l'océan.
Ouais.
Se baigner dedans.
Que dit là-dessus je cherche la citation de Attard. Ayant bu des mers entières, nous restons tout étonnés que nos lèvres soient encore aussi sèches que des plages. Et toujours cherchons la mer pour les y tremper sans voir que nos lèvres sont des plages
et que nous sommes la mer.
Oh, c'est magnifique.
C'est Attard, ça. Faridoudine
Attard, c'est le plus grand poète du monde.
Bien sûr. Ouais. Et alors, la poésie, les contes, les poètes et les conteurs, c'est la même, même famille.
Hein. Non seulement c'est la même famille, mais il y a des sociétés dans lesquelles le conteur, on l'appelle le poète.
Ouais.
Et d'ailleurs... on m'a parfois présenté dans certains lieux ou sociétés comme le poète.
Où ça,
parce que
par
je
exemple,
racontais des histoires en Afrique.
Henri Google, poète.
Vous savez quelle distinction on fait dans un pays qui m'est cher, enfin, puisque moi je suis née à Bamako, je suis née sous l'arbre à palabre.
C'est vrai.
Et quelle distinction on fait entre le conteur et le maître de la parole. Nous avions appris ça lors d'une soirée de la grande parole de Bamako. Il y avait 800 ou 1000 personnes dehors qui écoutaient un vieillard respectable qui parlait en bambara et visiblement rien n'existait que sa parole. Et on dit à un Africain, c'est un très grand conteur, et le bambara qui était avec nous dit non, lui c'est pas un conteur, c'est un maître de la parole. Alors on dit, mais quelle est la différence ? Et Henri était là. Et il nous dit, quand le conteur parle, les femmes et les enfants se taisent. Quand le maître de la parole parle, non seulement les femmes et les enfants se taisent, mais les hommes eux-mêmes se taisent, les oiseaux dans les arbres s'arrêtent de chanter et le toit des huttes se soulève.
Jusqu'à 21h sur France Inter, on soulève les toits de nos voitures, de nos maisons, on soulève les toits qui pèsent sur nos têtes, on s'allège grâce aux maîtres de la parole Bernadette Bricout et Henri Gougaud.
Mon kérilla ne tombe de feu, mon kérilla ma chérie, mon kérilla ne tombe de feu. Il bat le corps qui te fourma, qu'au vingtaine ne tombe de feu. Il fallait que quitte fourme, qu'au vingtaine ne tombe de feu. Il t'a dit le cœur quitte fourme, qu'au vingtaine ne tombe de feu. Et que n'a demi, et que n'a cassé, et gana amigo et jarabicasson. Et que n'a demi, et que n'a cassé, et gana amigo et jarabicasson. Mon guérilla, jarabio. Mon guérilla ne tombe de feu, mon guérilla ma chérie, mon guérilla ne tombe de feu. Il bat le corps qui te fourma, qu'au vingtaine ne tombe de feu. Il fallait que quitte fourme, qu'au vingtaine ne tombe de feu. Il t'a dit le cœur quitte fourme, qu'au vingtaine ne tombe de feu. Et que n'a demi, et que n'a cassé, et gana amigo et jarabicasson. Et que n'a demi, et que n'a cassé, et gana amigo et jarabicasson. Mon guérilla, jarabio. Mon guérilla ne tombe de feu, mon guérilla ma chérie, mon guérilla ne tombe de feu. Encore que la lambe soda la, yo se pète de la bima. Fala lembe sodala io jarabe jarabima io sharia inabo. Mkerila jarabio, mkerila ne dumbe defo, mkerila ma sharia. Mon kérilla ne tombe de feu, mon kérilla jarabi, mon kérilla ne tombe de feu.
On dit que compter, c'est aussi, c'est pas seulement faire l'amour à celui qui écoute, c'est agir sur les grandes forces du monde. Et c'est la raison pour laquelle donc ça, on dérange les esprits. Enfin, on introduit une force agissante. Et c'est pour ça que, par exemple, il faut toujours terminer les histoires. Une histoire interrompue, elle introduit un désordre, une espèce de vide, voyez, ou de faille dans le
d'ailleurs,
monde.
D'ailleurs, quand ça arrive, le conteur africain, puisque c'est en Afrique que ça se passe comme ça, le conteur africain, s'il est interrompu au milieu d'un conte, il s'arrête, il s'adresse directement à l'esprit, il lui dit « c'est pas moi qui ai arrêté le conte, hein, c'est lui, alors si tu as à te venger, c'est sur lui ».
Parce qu'on désorganise le monde, mais oui, après, il faut le réordonner. Faut aller au terme pour
on
qu'il
a
y ait
réveillé,
un autre ordre.
Voilà. En tout cas, on a réveillé les esprits, on a réveillé les grandes forces du monde, et voilà qu'on introduit une espèce de déséquilibre. La boucle n'est pas bouclée.
Ouais.
Donc, voilà, oui, il faut aller jusqu'au bout du chemin, y compris pour le conteur. Un conte interrompu, c'est pas... Vous voyez, là, on est dans des histoires qui font sens. Chacune d'elles est une totalité. C'est difficile à comprendre pour nous, qui sommes aujourd'hui dans une société qui cultive le fragment. le fragmentaire, l'éclat, l'instant, l'instantané. Non, là, on est vraiment dans un chemin qui, enfin, sur un chemin qui fait sens. Et l'histoire, elle doit être contée jusqu'à son terme.
Parce qu'à la fin de l'histoire, le monde aura changé ?
Parce que raconter une histoire, ça n'a rien d'anodin. Ça réveille les esprits, ça les met en marche, ça réveille des énergies dont on n'est pas maître. Donc il faut faire attention avec ça. On ne manipule pas l'invisible comme ça. Voilà, il faut être respectueux de l'invisible. Il faut être poli avec l'invisible.
Parce qu'on touche à l'invisible.
Bien sûr. Oui, oui, bien sûr.
On touche à ce qu'on ne nomme pas d'habitude, on touche à ce qu'on ne touche pas, justement.
Oui, justement, à une part d'inexprimable. Le conte dit ce qui ne peut pas être dit autrement.
Henri Poura, sur lequel j'ai beaucoup travaillé à une époque, disait que les contes nous enseignent le savoir-vivre vis-à-vis du monde invisible. C'est-à-dire vis-à-vis des esprits, vis-à-vis des morts, vis-à-vis de ceux qui ont disparu. Vous voyez, une forme de courtoisie, de civilité, mais au sens le plus élevé qui soit. C'est-à-dire, oui, un savoir-vivre, voilà. Il y a,
Alors ça m'intéresse.
Ah.
Est-ce que vous avez des histoires comme ça qui pourraient m'expliquer, des contes qui pourraient m'expliquer cette relation avec le monde invisible et ce que vous me dites ? Parce que moi, je trouve ça très intéressant de qu'il faut faire attention et qu'on nous apprend à vivre. Comment vous m'avez dit ?
Le savoir-vivre.
Le savoir-vivre avec le monde invisible.
Vis-à-vis du monde invisible.
Vis-à-vis du monde invisible.
Par exemple, je ne connais pas de contes qui parlent, qui évoquent d'une manière ou d'une autre le néant. La mort est vivante. Le pays des morts est un pays comme les autres. On peut aller chez les morts et en revenir. Moi, je me suis trouvé un jour dans une école à rencontrer des élèves, des gosses d'une dizaine d'années, quoi. Et je me trouve à raconter un conte qui s'appelle L'Homme Vert. Et justement, en Gascogne, il y a un personnage comme ça qui s'appelle l'homme vert qui apparaît de temps en temps et qui donne un conseil à un gosse, un passant, quelqu'un, un paysan, et puis qui disparaît, mais il apparaît, il disparaît quand il veut, on ne peut pas le convoquer. Et il y a un gosse qui me dit, mais il vient d'où cet homme vert ? Je lui dis, il vient du pays invisible. Et là, il me demande, là, il est perplexe, il doute, il me demande une explication sur le monde invisible. Il ne croyait pas, manifestement. Et moi, je me sens obligé, non pas de régler la question par une pirouette, mais de répondre vraiment ce que je crois. Et je lui dis, en géographie, sûrement, on vous apprend qu'il y a des pays avec des frontières, des modes de vie différents, des langues différentes, etc. Mais on ne vous apprend pas qu'il y a surtout deux pays, le pays du visible et le pays de l'invisible. Et qu'entre les deux, il y a une frontière, mais qui se franchit de temps en temps. Il y a des êtres du pays invisible qui viennent chez nous, et nous, on va aussi. Et justement, il y a un gosse qui me dit, alors la mort, eh bien, je lui dis, c'est ça, on rentre dans le pays de l'invisible. Voilà. Mais on peut y aller, revenir. Je ne sais pas, moi, comment ça se passe. Je ne suis jamais allé dans le pays de l'invisible. Mais il y a des contes qui y vont. Et si vous voulez que je vous raconte des contes qui vont dans le pays de l'invisible, je peux.
Vous passez à quoi ?
Oh, je pense à une histoire qui peut changer la manière de voir de quelqu'un qui a perdu un être cher. Le rêve de Corée, là.
C'est vraiment un conte très sombre, ça. Moi, je pensais...
Pas, moi.
Je peux peut-être en évoquer un, puis tu le... Non ?
Allez-y, évoquez, vous verrez si vous vous complétez.
Voilà, on verra si on se complète ou pas.
Si vous convient ou pas.
Mais parce qu'en fait, je pensais aussi à la mort, mais je ne pensais pas au même. Je pensais à la mort marraine. Dans la mort marraine, il y a la mort marraine ou la mort parrain. le héros est un garçon qui a la mort pour marraine ou pour parrain. Enfin, en général, c'est la mort marraine. Hein, c'est plutôt comme ça qu'on l'appelle. Et donc, il est la mort marraine protège son filleul et l'avertit, enfin le met en garde contre un certain nombre de dangers. Et ainsi, le voilà pendant très longtemps, il devient un grand médecin parce que la mort lui dit « Lorsque je serai au chevet des lits, tu me verras, tu seras seul à me voir et alors tu pourras dire que le cas est désespéré. Mais si je n'y suis pas, bon. » Alors voilà, on ruse pendant ce temps-là et donc pendant très longtemps, puisqu'il voit ce que les autres ne peuvent pas voir, il va devenir un grand médecin. Et puis un jour, il y a un passage très célèbre de la mort marraine où il se trouve dans une grotte où il y a toute une série de bougies allumées. Il y a 1000 bougies allumées. Elle dit, tu vois, toutes ces bougies représentent les vies qui sont sur cette terre. Chaque bougie est une âme. Et il dit, quelle est ma bougie ? Puisque la hauteur de la bougie, la flamme de la bougie, indique la hauteur de vie qui me reste. Et elle lui montre une bougie qui est tout près de s'éteindre, une bougie lamentable, une bougie chétive. Et à côté est une bougie magnifique avec une flamme très droite. Il dit, mais écoute, puisque tu es ma marraine, échangeons-les, je t'en prie, donne-moi l'autre. Et elle dit, l'autre, c'est celle de ton fils. Veux-tu que nous inversions ? Voilà. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre... Alors, il se range, évidemment, à l'avis de la mort marraine, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage d'un ordre du monde, non pas résignation,
non.
Mais acceptation d'une épreuve que la vie nous impose, et qui est le fait d'être mortel, de voir partir l'autre, peut-être, et c'est là qu'on va retrouver le conte auquel tu songeais, mais aussi d'accepter le deuil comme un temps nécessaire, mais la vie aura le dernier mot. Là, je te prépare le terrain.
C'est C'est une fille qui perd sa mère. Elle perd sa mère, elle désespère, elle était extrêmement attachée à sa mère. C'est un conte breton. Elle est inconsolable, elle pleure, elle n'arrête pas de pleurer. En toutes circonstances, il lui suffit d'ouvrir l'armoire où sont les affaires de sa mère pour éclater en sanglots. Le nom seul évoqué de sa mère. Bref, elle pleure. Elle pleure tant et si mal qu'un dimanche, elle va à l'église, elle pleure encore. Et le curé lui dit, écoute, il faut que tu arrêtes de pleurer. Mais je ne peux pas, ma mère était tout pour moi, elle m'est trop chère, etc. Et le curé lui dit, tu veux la voir une dernière fois, ta mère ? Je peux te permettre, c'était un curé sorcier, il y en a comme ça, des curés sorciers. Et il dit, je vais te donner un talisman, tu pourras voir ta mère, tu vas te coucher ce soir avec ce talisman sur la poitrine. Et à peine seras-tu endormi que tu seras au village des morts, où est ta mère. Et tu pourras la voir une dernière fois. Et ça se passe comme ça, elle met le talisman sur sa poitrine, elle s'endort, mais elle ne s'endort pas, elle se retrouve dans un village breton. Voilà, comme ça, avec le bistrot, les rues pavées, voilà, des vieux qui jouent au domino à la terrasse du bistrot. Voilà, un village simple. Elle baguenaude un peu dans ce village et elle voit sa mère arriver au fond de la rue qui porte deux seaux d'eau, apparemment très lourds. Elle s'amène jusqu'à sa fille, la mère, elle dit à sa fille, « Ah, c'est toi !» Et la fille dit, « Oui, mais c'est moi, mais... » Tu es chargé, tu es fatigué, tu portes ces seaux d'eau comme ça. Est-ce que je peux t'aider ? Et la mère lui dit, ouais, tu pourrais m'aider parce que ces seaux que je porte, ce sont tes larmes. Alors arrête de pleurer et je serai plus légère.
Ce conte que vous venez de me raconter, là, celui-là, je crois que je ne l'oublierai jamais. Je pense que ça peut nous faire gagner des années de larmes.
Je crois.
Et ouais. Ce conte, il est vraiment... Alors vraiment, franchement, ça, c'est un cadeau.
La mort, au sens qu'on lui donne quand on est un peu athée ou désespéré, c'est-à-dire le néant, quoi.
Ouais, c'est ça.
Le conte, non seulement n'en parle pas, mais n'envisage pas ça. C'est impossible, ça. Ça n'existe pas.
Le rien.
La mort est vivante. Il n'y a pas de rien dans le conte. Il n'y a que de la vie.
Et, pas la, et la tristesse doit être passagère. C'est-à-dire, ça ne peut pas.
Oui,
on va pas
c'est
arrête
ça.
De remplir ces seaux de larmes.
Voilà, voilà.
Arrête.
Oui.
Le conte est une parole de nuit, il ne s'épanouit que dans l'obscurité. Le conte dit ce qui ne pourrait être dit autrement. Et c'est un drôle de chemin que nous suivons ce soir avec Bernadette Bricout et Henri Gougaud. En parlant d'amour, la mort nous a surpris et la mort nous a rappelé la vie. Dans les contes, c'est toujours la vie qui a le dernier mot.
Il y a aussi de l'ombre et de la lumière chez les vivants.
Et le vous voulez dire du visible et de l'invisible chez les vivants aussi ?
Du visible et de l'invisible. Je dis de l'ombre et de la lumière, ouais, c'est-à-dire ce qui est montré, ce qui d'ailleurs peut-être nous constitue, ou même ce que nous voulons montrer au monde. Et puis il y a de l'invisible qu'il ne faut pas vouloir à tout prix éclairer. Parce que si on veut de la clarté partout, enfin je pense à nos auditeurs, je pense que nous sommes dans des sociétés où on est dans... Vous savez qu'il y a beaucoup d'émissions centrées sur la confession intime, on va aller jusqu'au bout de la transparence, il faut tout se dire, il faut tout se dire. Parce que
je dois tout savoir.
Je dois tout savoir, ben ça c'est un... Voilà, il faut que tu me dises tout. Or, il y a des contes qui nous apprennent aussi à respecter cette part de l'ombre. Moi, je trouve que c'est une autre forme de savoir-vivre vis-à-vis de l'invisible qui est en nous. Je peux t'aimer et tu peux m'aimer, mais il y a des choses qui t'échapperont toujours et qui doivent t'échapper. Et cela est bien ainsi. Il faut résister à la tentation de tout savoir de l'autre. Sinon, on le détruit. Et il y a des contes qui disent ça magnifiquement.
Mmh. Henri.
L'histoire de la lumière.
Bah, par exemple, oui, c'en est un.
On raconte qu'une princesse avait juré de n'épouser qu'un homme entre tous poétique, surprenant, imaginatif. Elle fit donc publier partout que seul partagerait son lit celui qui se rendrait capable d'emplir sa chambre en un seul jour, du parquet au coin du plafond et d'un mur à celui d'en face, de l'emplir de n'importe quoi pourvu que rien n'y reste vide. Les prétendants s'en vinrent donc avec des charretées de paille, des ballots de sable, de plumes, de chiffons ou de confettis. Ils entassèrent, accumulèrent et s'échinèrent jusqu'au soir. Aucun ne put combler l'espace à ras-bord, comme il le fallait. Vint enfin un matin un jeune homme frisé, insouciant, simple d'allure, sans rien d'autre que son bon air. Il passa la moitié du jour à faire la conversation à la princesse, à ses servantes. L'après-midi, il fit la sieste, affalé sur le canapé. Puis il se fit servir le thé. Enfin, comme le soir venait, il ouvrit posément son sac, en sortit un vieux chandelier en cuivre terne cabossé, planta dedans une bougie, bâtit son briquet, l'alluma et la lumière fut partout, jusqu'aux quatre coins de la salle. La plupart des conteurs finissent là l'histoire. Il arrive pourtant qu'elle soit poussée plus loin, car il paraît qu'au soir des noces, la princesse dit au garçon « Tu n'as pas vraiment satisfait à mon exigence première. Il est, dans mon appartement, un lieu demeuré dans le noir. »« Ah bon, lequel ? » dit le garçon. « Le cercle sous le chandelier à l'endroit où tu l'as posé. »« Et pourquoi n'en as-tu rien dit ?»« Parce que je suis, dit la princesse, toute semblable à cette chambre que tu as emplie de lumière. Je garde et garderai toujours, comme elle, une part de ténèbres, de mystérieuse obscurité où personne jamais ne pourra pénétrer. »
Ce que j'aime, c'est que ce jeune homme doit être poétique. Quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est quoi un homme poétique? Vous savez,
un homme, j'embrayerai sur la Cendrillon japonaise. Un homme poétique, c'est quelqu'un, pour moi. Alors d'abord, il emplit la chambre de lumière, c'est vrai, mais presque à son insu, il laisse une part d'ombre. Donc, il répond à l'épreuve de la princesse, de manière d'ailleurs surprenante, puisque oui. On voit que pendant la journée, il ne fait rien. Donc pour moi, un homme poétique, c'est quelqu'un qui serait capable de me surprendre. Et on n'a pas énormément parlé de la surprise, mais la surprise, alors vous allez me dire qu'il y a des surprises désagréables, mais je crois aussi que la surprise nourrit l'amour.
Non, je n'aurais jamais pensé à ça.
Voilà, je crois que la surprise nourrit l'amour et elle nourrit le désir. C'est pour ça aussi que la part d'ombre est importante. Pour continuer, pour désirer l'autre, pour être toujours sur le chemin qui conduit vers lui, il faut qu'on ne sache jamais complètement où il va. Donc c'est ça la part d'ombre. Mais un être poétique, c'est aussi quelqu'un qui m'aidera à percevoir le monde autrement. Alors, il y a des hommes poétiques, mais il ne faudrait pas que nos auditeurs croient que les femmes ne sont pas poétiques. Il y a un conte qui dit ça magnifiquement. Alors, c'est une version assez peu connue de Cendrillon, qui d'ailleurs met en scène non pas trois sœurs, mais deux sœurs. L'une est mauvaise et l'autre est bonne. L'une fait le bien autour d'elle et l'autre est une calamité qui détruit tout. Enfin, vous avez compris. Mais quand même, comme dans les contes, les princes sont souvent aveugles, comme nous pouvons l'être nous-mêmes dans la vie. Ben, à la fin, il se trouve avec deux filles. Il a entrevu celle que son cœur aime, mais toutes deux prétendent être l'élu. Et il est incapable de dire quelle est la bonne. Alors il dit, c'est très simple. Je vais faire quelque chose. Je vais faire un geste là. Et sur ce geste, vous ferez un poème. Vous voyez, c'est presque un concours au fond.
D'improvisation.
Chacune d'entre elles va pouvoir écrire un haïku. Alors que fait le prince? Il prend une assiette. Il met l'assiette sur un plateau. Au milieu de l'assiette, il jette du sel. Un tas de sel. Et sur le tas de sel, il enfonce une aiguille de pin. Et ensuite, il leur demande de composer un poème. Alors arrive la mauvaise, qui s'appelle Kakezara, la fausse héroïne. Évidemment, je ne vais pas pouvoir vous le donner en japonais, mais je vais essayer de le traduire au plus près, qui dit « Mets une assiette sur le plateau, mets du sel sur l'assiette, enfonce une aiguille de pin dans le tas de sel, elle tombera très vite. » Et puis, le conte nous dit qu'elle frappe le prince et qu'elle s'enfuit. D'ailleurs, cette aiguille de pin qui s'écroule très vite augure mal de la suite si on songe à ce qui est arrivé à Monsieur Dard. Enfin, c'est pas un pin rayonnant. Alors, la Cendrillon japonaise, Benizara, la bonne, arrive et on nous dit qu'elle chante, mais hélas, je n'ai pas la voix pour le chanter. Un plateau, une assiette haut. Une montagne s'élève du plateau. Sur ses cimes, la neige est tombée. Et dans la neige, enracinée, un pin solitaire a poussé. Oui, c'est les monts du Fuji. Alors, dit le prince, eh bien, c'est toi la femme poétique. C'est toi qui seras mon épouse. C'est beau, n'est-ce pas?
Ah, c'est très joli.
C'est très beau. Et en même temps, alors évidemment, c'est une épreuve de l'esprit, mais en même temps, c'est celle qui nous fait voir le monde sous un jour poétique aussi, qui nous fait voir le monde autrement.
Ce soir, c'est la poésie qui a eu le dernier mot. Merci à Bernadette Bricout, femme poétique, et à Henri Gougaud, homme poétique. C'était un vrai plaisir de les rencontrer tous les deux. Sur le site de l'émission, vous pouvez réécouter l'émission, la podcaster. Sur le site aussi, vous trouverez les références des disques que l'on a passés, les références des livres de Bernadette et de Henri. Sachez aussi que chaque semaine, sur le site de l'Heure des rêveurs, il y a, dès le mercredi, un extrait de l'émission à venir, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Et la semaine prochaine, je vous assure que ça vaut le détour, ça sera l'émission la plus déjantée de la fin de l'année, pas piquer des hannetons, je vous le promets. Alors, à vendredi prochain, 20h, qui ne sera pas tout à fait une heure des rêveurs.